Alors, notre article s'intitule « Participation, urbanisme et études urbaines, quatre décennies de débats et d'expériences depuis A Ladder of Citizen Participation » de Sherry Arnstein. Plus de quatre décennies après la publication de cet article, qui est souvent considéré comme un article classique et fondateur, nous proposons un bilan critique des recherches portant sur la participation publique en urbanisme et en études urbaines dans un contexte à la fois nord-américain et européen. Donc, notre présentation se fera en quatre temps. Dans un premier temps, après avoir délimité les champs de l'urbanisme et des études urbaines, je vais retracer rapidement la façon dont la participation publique a émergé dans ce champ de pratique en opposition au modèle de la planification rationnelle globale. Dans un deuxième temps, je porterai une attention particulière aux approches collaboratives de la planification et de l'urbanisme, qui sont fortement inspirées des courants communicationnels et délibératifs, et surtout aux débats qui ont accompagné leur diffusion dans le champ de l'urbanisme. Dans un troisième temps, Marie-Hélène reviendra sur quelques pratiques participatives plus concrètes et sur les analyses qui en ont été faites, afin d'essayer de dégager un bilan des recherches actuelles et des questions qu'elle soulève. En conclusion, Marie-Hélène présentera et discutera la thèse de l'émergence d'une période post-collaborative des recherches sur la participation en urbanisme. Donc, une perspective qui tente d'aller au-delà des perspectives traditionnelles, qu'elles soient idéalistes ou ultra-critiques. Et donc, elle présentera également notre proposition, si on veut, qui consiste à adopter une perspective davantage pragmatique et empirique afin d'analyser et de comparer les processus participatifs. Alors, peut-être quelques remarques préliminaires. L'exercice même de faire un bilan critique, ce qui nous était demandé, et de dégager des pistes de recherche, est tout un défi, surtout dans ce champ-là, qui comporte une vaste littérature sur le sujet. Mais malgré la difficulté, on y voyait, enfin, au moins trois intérêts importants. Le premier, c'est que la question de la participation en urbanisme ouvre sur des expérimentations qui sont extrêmement diverses et multiples, et aussi sur une littérature professionnelle, scientifique, mais aussi professionnelle, qui est extrêmement prolifique. L'autre élément qui nous apparaissait important, c'est le fait que les expériences de participation publique dans le champ de l'urbanisme relèvent des efforts de théorisation dans un champ depuis plus de 40 ans. Et c'est pour ça, notamment, qu'on fait référence à l'article de Sherry Arnstein et à son échelle de la participation. Un article qui est publié en 69 dans une revue américaine des professionnels du planning, l'American Association of Planning, American Planning Association. Et son analyse reposait sur une expérience concrète de terrain. Hein. Sherry Arnstein était responsable d'une association, d'une ONG qui s'intéressait notamment à des programmes de rénovation urbaine, de lutte contre la pauvreté, de cités modèles. Et elle était une conseillère influente auprès des administrations publiques sur les domaines de la participation publique. Alors, son échelle de la participation... Voilà. Son échelle de la participation, finalement, était, si on veut, dans les années 60, une critique assez forte des dispositifs participatifs existants, les sondages d'opinion, les assemblées de quartier, les audiences publiques, qui se résumaient, selon elle, à des rituels symboliques, ce qu'elle appelait des « window dressing ». Elle en appelait à des formes de participation plus axées sur le partenariat, la délégation de pouvoir, le contrôle par les citoyens, donc au sommet de l'échelle. Et j'ai voulu mettre en exergue aussi le contexte des années 68, de mai 68, où finalement, avec ce slogan des étudiants de mai 68, on mettait de l'avant l'idée que la participation sans redistribution de pouvoir finalement était un processus un peu vide de sens et frustrant pour les plus démunis. On pourrait y revenir, on sent que ça évoque des choses. Et peut-être le dernier point d'intérêt, c'est cette idée que dans le champ de l'urbanisme, La question de la participation, ben, le champ de l'urbanisme interroge des relations entre pouvoir politique, technique et expertise, entre des questions de savoir urbain et de savoir usage, qui, à notre avis, même s'ils sont spécifiques dans le contexte urbain, peuvent peut-être éclairer le champ plus large de la participation publique. Alors, un mot pratique sur le champ de l'urbanisme et des études urbaines entre sciences, praxis et politique. Il nous apparaît important de rappeler que l'urbanisme ne correspond pas à un champ unifié, hein, mais plutôt à un monde des professionnels de l'urbain, selon l'expression de Viviane Claude, et donc qui renvoie à des pratiques qui sont diverses et qui se sont plus ou moins institutionnalisées à partir du 20e siècle. Et Topalov nous rappelle que la naissance de l'urbanisme, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, s'est inscrite dans un projet de réforme sociale importante, porté par une nébuleuse réformatrice. Et entre autres, aux États-Unis, cela s'est traduit non seulement par la volonté de rationaliser le développement des villes ou de répondre à des enjeux sociaux et sanitaires, mais aussi de réformer les gouvernements locaux, notamment pour contrer la corruption politique, notamment pour lutter contre la machine politique, ce qui a conduit à une conception assez apolitique des pratiques urbanistiques, et j'y reviendrai plus tard. Donc, les premiers pas de l'urbanisme sont marqués par, évidemment, la philosophie des Lumières, de la rationalité, du progrès, où les maîtres mots sont assainissement, insalubrité, classe dégénérée, et qui sont au cœur des préoccupations de la question urbaine. Et donc, l'urbanisme va se construire comme un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui sont mobilisés dans une entreprise de mise en ordre et de rationalisation, dans lequel les valeurs et les représentations de la ville sont rarement explicitées. Peut-être trop près.
Non, il arrête.
Ça va, voilà. Et donc, ils sont défendus souvent au nom de savoirs techniques qui sont mis au service d'un dessein politique. On peut dire que c'est à partir des années d'après-guerre, dans les années 50 et 60, que les véritables pratiques planificatrices se structurent autour de ce qu'on va appeler le modèle de la planification rationnelle, le Rational Comprehensive Planning, qui mène au plan global, au master plan et à la planification de type holistique et rationnel, qui constitue, si on veut, le paradigme fondateur de la pratique urbanistique, de la pratique planificatrice, cette idée qu'il est possible de lier connaissance et action. Je renvoie au livre de John Friedman, dont le titre est révélateur. Hein, qu'il est possible, à partir de bonnes connaissances scientifiques, de connaissances des sociétés notamment, de passer à une action publique rationnelle et cohérente. C'est précisément la contestation de ce pouvoir centralisé, des formes d'urbanisme ainsi produites et des inégalités spatiales qui sera, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, à l'origine de la montée des mouvements sociaux, des mouvements sociaux urbains, et aussi des demandes sociales en faveur de la démocratisation et de la participation publique. Dans le contexte nord-américain, les études urbaines sont nées aussi dans cette période des années d'après-guerre, comme un champ académique distinct, qui repose sur une perspective assez interdisciplinaire, qui croise sociologie, géographie, anthropologie et la diversité des disciplines des sciences sociales, pour analyser précisément le développement urbain, mais aussi les pratiques professionnelles. Et je dirais peut-être que dans le contexte anglo-saxon, la question des théories de la planification est plus importante, on y reviendra. Il faut dire aussi que les études urbaines aux États-Unis avaient pour objectif notamment de répondre à la crise urbaine, et à la demande sociale en faveur d'une plus grande participation et de démocratisation. Et on avait, en tout cas au début des années 60-70, des chercheurs très près du militantisme et des communautés. Hein? Donc, c'est un peu dans ce contexte qu'émerge ce qu'il est convenu d'appeler, dans le contexte anglo-saxon, le planning theory, les théories de la planification. Oui, avec des ouvrages forts comme dans le monde anglo-saxon, on retrouve notamment des readings dans les théories de la planification et un certain nombre d'ouvrages forts. On a voulu dans notre texte rappeler que plusieurs facteurs articulés peuvent permettre de mieux saisir comment la participation publique a émergé dans le champ de l'urbanisme. On les a regroupés en 6 points, mais disons que le point commun, c'est cette remise en question de l'approche du Rational Comprehensive Planning. Donc, 6 points, la montée en puissance des mouvements urbains, bien sûr, hein, qui sont porteurs à la fois d'une critique sociale, mais aussi politique et écologique, et notamment procédurale, hein, extrêmement sur les mécanismes de prise de décision, et qui vont remettre en cause fortement les processus décisionnels, les démarches de planification, les démarches de l'action urbanistique des années 60 et des années 70. Mais il faut mettre en perspective cette montée en puissance des mouvements sociaux urbains avec le développement chez les professionnels de la planification d'une approche plus réflexive. Les travaux de Donald Chang, notamment, ont bien montré comment les professionnels de la planification ont remis en cause eux-mêmes leurs propres pratiques planificatrices. Et on évoque dans le texte toutes les démarches d'advocacy planning, hein, l'importance de développer des projets alternatifs, souvent bien en lien avec les mouvements sociaux. Un autre facteur important, c'est ce qu'on a appelé la critique postmoderne de la planification, qui est allée jusqu'à remettre en cause l'utilité même de la planification et des démarches urbanistiques pour améliorer la qualité de vie des citadins. Mentionnons aussi les travaux d'histoire des sciences et l'analyse des savoirs urbains qui ont mis en évidence notamment tout le savoir vernaculaire, le savoir d'usage, les savoirs diffus, qui aujourd'hui interpellent fortement les pratiques urbanistiques. Deux autres points, la montée en puissance de la notion de gouvernance urbaine qui interpelle tous les jours les pratiques urbanistiques, que ce soit en termes de redéploiement des échelles territoriales, de redéploiement des acteurs, de l'émergence des conditions de partenariat privé-public. Et enfin, le contexte actuel qui fait appel énormément aux notions de développement durable, qui est perçu bien souvent comme étant un nouveau paradigme, un paradigme susceptible notamment de refonder l'action urbanistique. Avant de passer la parole à Marie-Hélène, un mot sur le développement de ces approches participatives, ces approches collaboratives. Hein? Donc, rappelez que c'est vraiment en opposition au modèle de la planification rationnelle globale que se construisent, notamment dans les pays anglo-saxons, ce qu'on va appeler le collaborative planning, qui va concevoir la planification comme un processus interactif et politique. Déjà dans le début des années 70, les professionnels américains de la planification vont reconnaître les limites du modèle rationaliste, notamment l'utilisation exagérée des modèles mathématiques dans la planification des projets. Cette idée qu'à tout problème trouve sa solution, hein, la rationalité étroite qui ne tient pas compte de la complexité, etc. Alors, tout le tournant communicationnel et argumentatif au sein des théories de la planification va soulever la possibilité de reconstruire un modèle rationnel, mais un modèle fondé sur une nouvelle rationalité, sur une rationalité qu'on pourrait qualifier d'intersubjective, et qui va déboucher sur ces approches collaboratives formulées par plusieurs théoriciens, dont Patty Healy, ma diapo elle est pas très belle, de son ouvrage qui s'appelle « Collaborative Planning », et notamment les travaux de John Forrester sur la pratique des professionnels dans l'exercice de la délibération. Donc, ce sont des approches qui vont concevoir la planification comme un processus interactif et politique dans lequel la participation apparaît comme étant déterminante. Des approches qui s'appuient aussi sur la philosophie habermasienne de l'agir communicationnel et qui vont mettre l'accent sur le recours au dialogue, hein, pour définir des valeurs communes et penser des stratégies de négociation, de médiation, de concertation entre les acteurs. Dans l'ouvrage de John Forrester, notamment, on insiste beaucoup sur les habiletés des professionnels de la planification à exercer ces fonctions de négociation, de médiation et de facilitation, si on veut. Les approches collaboratives se conçoivent avant tout comme un processus collectif d'apprentissage continu basé sur l'interaction entre les acteurs par le biais de structures de concertation, de partenariats publics-privés, de systèmes de gouvernance territoriale. Elles mettent de l'avant l'idée d'un intérêt général négocié, hein, par opposition à un intérêt général substantialiste, dans lequel le succès de la planification consiste à l'atteinte d'un accord, à l'atteinte d'un consensus, d'une entente. Et les travaux de John Forrester, notamment, ont montré que la pratique des urbanistes met déjà de l'avant ces principes du collaborative planning. Alors, je terminerai en disant que la méthode du community planning, qui a été récemment importée en France, s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Ce sont des ouvrages qui ont été assez diffusés au cours des dernières années en France. Et résumons un peu la perspective, hein. Ça se présente comme une démarche de concertation citoyenne en urbanisme qui se définit comme un processus collaboratif très structuré dans lequel les parties prenantes, hein, on voit la notion de stakeholder apparaître, incluant la population locale, travaillant de concert sous la conduite d'experts indépendants issus de disciplines variées, hein, la perspective interdisciplinaire est mise de l'avant, en vue de projeter ensemble le futur de leur territoire ou de certains aspects de la vie locale. Alors, je vais laisser le soin à Marie-Hélène de développer les deux autres points de notre présentation.